près de toi.
Près de toi.
Près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
I walk down the wall, I walk bare alone. I walk in down, I got felt alone. I'm Johnny Cash, I'm Reggie Nova. Je vais parler en français. Aujourd'hui, je suis fier et content d'avoir...
Excusez-moi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes qui exactement?
Je suis Johnny Cash et...
Le Johnny Cash? Le Johnny Cash mort il y a
en 2003 ans. En 2003, c'est ça?
Non, il n'est pas mort.
Et comment ça va alors?
Comment ça va, Johnny Cash?
Ça va bien, je suis très content d'être là sur...
Vous êtes en tournée en ce moment?
France Inter, Radio Nova.
Vous êtes en tournée?
Oui, je suis en tournée en France.
Quelques villes à annoncer?
Oui, Blénaud, Vierzon. Voilà, surtout je tenais à dire aux auditeurs qu'ils ne lâchent pas... L'espoir qui est perché en haut même de l'horizon, de leur imaginaire. Et l'idéal un jour viendra perler comme perle une rosée. Et il ne faut pas désespérer dans ce monde en souffrance. Et on pourra peut-être un jour voir papillonner.
Merci Johnny Cash, je pense qu'il...
On revient vers vous très très vite, oui. Très très vite.
Surtout ne partez
et
pas.
Faire en sorte.
Les infos, Thierry Paré.
Sans grande surprise, François Fillon a donc été mis en examen hier dans le Penelope Gate. Il était initialement convoqué par le juge Tourneur ce mercredi, mais le calendrier a été avancé pour éviter la frénésie médiatique. Le candidat de la droite est donc officiellement poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations déclaratives également. On notera que le chef de trafic d'influence, lui, en revanche, n'a pas été retenu. François Fillon aura finalement été confronté, comme d'autres avant lui, à un nouveau type de magistrat informé à l'école JIRS, J-I-R-S, un acronyme désignant les juridictions interrégionales spécialisées mises en place en 2004 afin de lutter plus efficacement contre la grande criminalité, mais aussi contre la délinquance financière des magistrats qui sont habitués en rapport de force avec les avocats. Les Néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi pour un scrutin législatif phagocyté par l'escalade verbale avec la Turquie et qui est d'ores et déjà considéré comme un baromètre de la montée de l'extrême droite en Europe. Le nationaliste Geert Wilders, qui souhaite, je le cite, désislamiser les Pays-Bas, entend bien tirer son épingle du jeu, même si ces élections devraient probablement déboucher sur un gouvernement de coalition dans le cadre de la proportionnelle intégrale.
Thierry, j'entends une petite voix au loin.
Je crois que c'est Johnny Cash qui reste encore avec nous.
Allô? Non. C'est moi, je rêve, pardon.
La Syrie, cette vaste salle de torture, ce sont les termes du haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, alors que cela fait tout juste six ans, aujourd'hui qu'a débuté le conflit syrien, conflit qui a fait environ 465 000 morts et disparus, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONU ne diffuse plus de bilan humain. La justice suspecte le groupe Renault d'avoir trompé ses clients sur le véritable niveau de pollution de ses moteurs diesel. Un document de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a été transmis au parquet. La disparition d'un producteur de légende, Tommy Lee Puma, 80 ans, de Columbia à la Warner, mais surtout de Miles Davis à Diana Krall, en passant par Barbara Streisand, George Benson ou encore Al Jarreau. Tommy Lee Puma aura collectionné tout au long de sa carrière 5 Grammy Awards. On estime à 75 millions le nombre d'albums vendus dont il a été à l'origine. On apprend aussi ce matin la disparition du peintre Henri Cueco, tenant influent de la nouvelle figuration. On reparle encore ce matin de la fusion entre le Stade Français et le Racing 92. Ça continue à faire pas mal de remous. Les joueurs du Stade Français annoncent un préavis de grève illimité à compter de ce jour. Et donc le match contre Castres samedi n'aura sans doute pas lieu. Grève aussi des entraînements, évidemment.
Et est-ce que ça change le calendrier?
En tout cas, pas de match contre Castres samedi.
Est-ce qu'il y a une fusion
des
deux clubs dans le calendrier?
Je sais pas.
C'est-à-dire le haut du mec et avec le ballon au milieu? Non.
Je sais pas du tout.
Je suis seul responsable de cette vague, merci.
La Juve et Leicester rejoignent Madrid, Munich, Dortmund et Barcelone en quart de finale de la Champions League. Déjà vainqueur 2-0 au match aller à Porto, la Juve s'est imposée 1-0 hier soir à domicile. De son côté, Leicester a battu Séville 2-0. Les Espagnols, triple tenant de l'Europa League, s'étaient imposés 2-1 à l'aller, donc ce n'est pas suffisant. Suite et fin des huitièmes de finale de la Champions League ce soir avec Monaco. Monaco qui s'était incliné 5-3 au match aller et qui reçoit Manchester City. Et puis l'Atlético Madrid attend Leverkusen. Les Espagnols ont gagné 4-2 au match aller en Allemagne.
Allô, 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 le journal.
On est là, Edouard.
Est-ce que vous me recevez?
Comme si, comme ça.
On te reçoit 1/5.
Je vous rappelle, bravo pour le journal qui...
Bon, il a dit l'essentiel, je crois.
on pourrait.
Bravo à Thierry Barret.
Bah, merci.
Vraiment, ici, dans l'Afrique du Sud, terre de contraste, où tout est couleur, odeur, son. Hein. J'ai traversé les soutes de Marrakech. Et vraiment, on apprécie beaucoup, surtout la partie foot, qui est la seule partie qu'on peut un petit peu internaliser. Je vais arriver à dire ce mot après un café. À tout de suite. Très bonne journée à tous.
7h, 9h, plus près de toi.
C'est nous sur Nova, c'était Her Squad avec Her Side Story. Il est 7h12.
Je le savais.
Évidemment, tout le monde le savait, mais je le dis quand même. 7h12, il est temps de prendre connaissance des dernières infos. Matman Khalif.
Oui, bonjour. Qui c'est qui est avec nous aujourd'hui? Il y a Thomas.
Oui, c'est moi.
Bonjour. Il y a Tito. Il y a Arnaud Dijonikash. Il y a Thierry Paré qui est resté. Et on attend Marie Misset. Et le beau Armel.
Vous êtes très beau avec votre moustache, vous aussi.
Et ma casquette, c'est pour les impôts et incognito. Voilà, donc c'est le quoi? C'est pas le club des...
Oui, je me suis trompé de musique, j'avais mis un truc un peu martial, mais
là,
ça marche pas.
Là, c'est Conan le Barbare, la musique. Donc c'est le club des connoisseurs.
Voilà,
c'est
vrai. Marie.
Voilà, avec Marie qui rentre dans le studio.
Voilà, Marie.
C'est très bonne musique française, des violons... des corps et de l'info.
Thomas,
oui,
une information.
Parce que vous me le demandez. Dans le dernier numéro en date de la revue Charles, qui est la revue trimestrielle politique aux éditions Latengo, il y a tout un article sur la cravate. La cravate en politique. D'abord, on apprend, moi je ne savais pas que la cravate, le mot cravate, date des années 1630 et ça vient du croate, hervat, que les gens n'arrivaient pas à prononcer. Donc on a prononcé ça cravate. Mais bon, et après, il y a un saut dans le temps. On nous apprend que la cravate, c'est une forme multiple. En fait, elle a été normalisée dans les années 20, simplifiée. Et puis dans les années 60, il y a une sorte de cravate yéyé qui venait notamment des Beatles, qui a été portée ensuite par les chanteurs, les jeunes chanteurs de l'époque. Et ensuite, les politiques l'ont adoptée. Par exemple, à la campagne présidentielle de 65, tous avaient une cravate slim noire, tous les candidats. Et même le général de Gaulle, au deuxième tour, a fini par porter cette cravate-là quand il était en ballotage. C'était aussi le modèle Kennedy qui avait cette cravate-là. Et puis, dans les années 80, c'est assez drôle, il y a les affiches de campagne de Jacques Chirac dans les années 86, 88, et il a tout le temps la cravate en l'air. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de voler. Il y a du vent dans la cravate à chaque fois.
Il est en mouvement.
Il est en mouvement, voilà. Donc, il y avait sans doute une symbolique imaginée.
Et il y avait les chemises retroussées aussi.
Les publicitaires. Et les chemises retroussées. L'article est sur la cravate. On verra la prochaine fois, la semaine prochaine.
Excusez-moi, juste, pour moi, le club des connaisseurs, c'est quand même quelque chose de vachement détendu, je trouve qu'on parle un peu vite.
Oui.
C'est quelque chose de plutôt dans la réflexion.
Puis,
on est plus dans la réflexion.
Et puis, oui, mais la cravate, c'est intéressant. Il faut terminer sur la cravate.
Oui, mais
puis,
est-ce qu'on peut.
Je pense que j'ai mis une critique sous-jacente, en fait, dans ce que.
Non, juste dire qu'on voit, on est.
Oui.
Ici, votre correspondant à Johannesburg.
Bonjour.
Ici, ce débat sur la cravate semble évidemment. Ça manque de précision. Parce qu'ici, dans un pays où on porte plus volontiers le boubou, le cou nu, le torse nu, le poil, le bijou. On veut des vrais détails. Je pense qu'on ne peut pas parler de la cravate sans parler de la bolotaille, hein, la cravate du cow-boy. On ne peut pas non plus parler de la cravate sans évoquer en politique l'arrivée de Jack Lang en 1982 avec un costume de Thierry Mugler sans cravate, où les
politiques
de droite lui ont dit « habillez-vous comme les Français ». Les Français portent-ils de la cravate? C'est un débat qui n'a pas été lancé dans le club des connoisseurs et ça nous fait beaucoup de mal ici.
Mais vous vous y connaissez en cravate, là, non? Beaucoup?
Monsieur,
oui.
Si dit débat, ne me renvoyez pas la balle.
Mais si, je vous renvoie la balle, je vous renvoie à votre cravate.
Matin, je n'aime pas les pongistes de bon matin, monsieur.
Mais vous avez une cravate, monsieur Baird, vous avez une cravate.
Je suis l'un des rares acteurs français qui fait lui-même ses deux papillons. C'est pour ça que je présente tous les 10 ans quand les Césars, c'est la seule occasion de porter un deux papillons.
Je crois que vous avez organisé un tutoriel sur YouTube pour faire les...
Oui, en effet, je suis à certaines universités m'invitent. Il y a deux façons de s'habiller en smoking aujourd'hui. C'est présenter les Césars ou être serveur dans un café.
Vous avez choisi la première, parfait.
Atman, peut-être une information?
Oui, très rapide, moi, parce que la cravate, c'était passionnant. Juste, il y a un témoignage...
Non, pas d'ironie, hein.
Non, mais si, je dis...
Bon, écoutez, compris, hein, je l'ai bouclé, j'ai fermé ma gueule,
la cravate.
J'ai pas cherché à en rajouter là-dessus, mais s'il vous plaît, passez à autre chose.
Mais je trouve que c'était un peu speed.
Voilà. Moi, juste dire que...
Il y a une expression ici en Afrique du Sud, on dit « tout doux bijou, hola l'ami ».
On dit la même chose dans le 6e à Paris.
Ah bon.
Oui, je vous le dis. Alors moi, dans le très sérieux Libération, il y a un témoignage poignant de l'ancien chauffeur de Jean-Marie Le Pen, qui est un ancien para, qui s'appelle Jean-Pierre Sablot, et qui a été esclave, son esclave, pour 2 000 euros à peu près tous les 6 mois. Il transportait Jean-Marie Le Pen de 9h du matin jusqu'à 23h. Il vivait dans 10 mètres carrés et il était mobilisable à toute heure. Et le pauvre a eu une maladie, on l'a viré Manu Militari, et il a fini vraiment à la rue. Et donc il s'en plaint, il a porté plainte, et Valérand de Saint-Just a contesté sa plainte, et lui s'est retrouvé vraiment venir au tribunal et sans argent. Alors, tout ça pour parler d'un livre qui sort, qui s'appelle Marine est au courant de tout, qui raconte un petit peu les méfaits et les déboires financiers du clan Le Pen et du parti Le Pen. Alors moi, il m'a vraiment touché ce para, parce qu'il dit plein d'expressions très coloniales, comme quoi j'étais un esclave, j'ai été payé au noir. Enfin, tout ça pour dire que dans la maison du pêcheur, on ne mange pas de poisson. Voilà, merci.
Atmen.
Oui.
Je me permets de vous dire que votre angle d'attaque sur le Front National pour dissuader les Français de voter Marine Le Pen n'est pas bon. Si vous voulez, de passer par le chauffeur, les horaires, par le fait qu'il n'avait pas droit, à ses étrennes, qu'il n'avait
mais
pas
oui, il avait droit à rien.
Le dimanche. Je ne suis pas sûr que vous arriviez, parce qu'il y a eu les mémoires du chauffeur de Trump qui sont parues, ça n'a pas enlevé une voix à Trump non plus, vous voyez.
Ben j'ai essayé d'attaquer un petit peu, j'ai fait mon petit canard enchaîné.
Le combat, il est beau, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon angle.
Désolé, alors je reviendrai la prochaine fois avec sa cuisinière.
Alors, ce qui s'est passé à partir de 1974, c'est qu'il y a eu un mouvement anti-cravatisme. C'était contre la cravate. Oui. Et c'est René Dumont qui portait un peu ce.
Ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut parler de façon. Ouais. De façon distincte, de façon. Voilà, on est entre nous, on n'a pas besoin, on n'est pas là pour prendre l'audimat.
De toute façon, personne ne porte de cravate.
On est entre nous. Je me souviens qu'il reste encore 15 auditeurs qui vous écoutent ce matin. René Dumont portait le pullover rouge à col roulé. C'est pour ça qu'il a eu 1%, premier candidat écologiste dans les années 60. Mais quant à la cravate du chauffeur de Jean-Marie Le Pen, oui. Elle n'était pas propre.
Elle sentait la crevette.
Il mangeait son sandwich dans la bagnole à la Léon Zitron et ça tachait, ça faisait des taches de moutarde sur la cravate. Sinon, c'est Georges Marchais qui en avait des très grosses en laine, comme vous, Edouard.
Il y avait aussi Michel Jobert. Oui. Les années Pompidou ont été les années de la grosse cravate tricotée.
C'est ça, on voulait entendre ça.
À Boucaré.
Bon, il paraît qu'on arrête là, hein, sur la cravate.
Le panel d'auditeurs derrière la vitre nous dit qu'il en a.
Ras la cravate.
Suffisamment d'informations.
Quel esprit!
Everybody's gonna learn sometimes. C'était Mécanique Cantatique à l'instant. Si vous connaissez l'auteur la version originale, eh bien vous avez gagné un grand cadeau.
Vous gagnez un mug plus près de toi.
Offert donc par Atmen Kelly.
Oui, j'en fais fabriquer par un ami à Albi dont on parlera demain.
7h21, pour sauver le web d'un grand péril, comment faut-il s'y prendre? Je ne savais même pas que le web était en péril. On va voir ça ce matin. Avec Thomas et Christophe Payet.
Ouais, c'est surtout avec Christophe Payet. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Le grand ordinateur du web à Nova qui de temps en temps vient nous expliquer dans plus près de toi les coulisses et les nœuds dans les tuyaux de l'internet. Et donc effectivement, Sir Tim Berners-Lee, dont on présente ce garçon comme l'inventeur du web, on en a parlé rapidement hier matin, veut sauver l'internet. Comment va-t-il faire?
Ça va être compliqué parce qu'en fait, effectivement, il considère, Tim Berners-Lee, que le web tel qu'il a été conçu originellement est en danger. Donc il a inventé, effectivement, on considère qu'il a inventé le World Wide Web en 1989. Le web, attention, c'est différent d'Internet.
Ouais,
Internet,
j'ai dit une bêtise dans ma question. C'est
ouais. Non, mais Internet, c'est les tuyaux, c'est un réseau de réseaux décentralisés sur lesquels il y a un certain nombre d'applications différentes, de façons d'échanger, de protocoles, en fait. Donc ça peut être le peer-to-peer, le mail, la messagerie instantanée. Et le web n'est qu'une des façons d'échanger des informations sur Internet. C'est une application sur laquelle il y a des pages avec des adresses URL et qui fonctionne par hypertexte. Voilà, c'est ça le web. Et effectivement, le web est né d'une utopie donc que Tim Berners-Lee définit dans cette tribune qu'il vient d'écrire. Il dit « J'avais imaginé le web comme une plateforme ouverte qui permettrait à quiconque partout de partager des informations, d'accéder à des opportunités, de collaborer par-delà les frontières géographiques et culturelles. Sauf que pour lui, ce web-là, ouvert, tel qu'il l'a conçu, il est en danger, et notamment il voit 3 symptômes très graves depuis les 12 derniers mois. Le premier, c'est la perte de contrôle de nos données personnelles. Alors ça date pas évidemment de cette année, mais il montre comment tout le système en fait de gratuité sur Internet est fondé sur un échange implicite, c'est-à-dire qu'on accepte la gratuité du service en échange du don de l'ensemble de nos données personnelles à des sociétés capitalistes.
Des fois, c'est même relativement explicite, c'est-à-dire quand on clique au bout de 3 pages de conditions générales d'utilisation d'un service, on ne le lit pas parce que ce n'est pas possible, on clique et c'est une manière aussi de céder nos
données. Effectivement, de toute façon, c'est toujours accepté, même si on n'en a pas conscience. Des données personnelles qui ensuite, non seulement vont vers des entreprises capitalistes, mais aussi la surveillance de masse et gouvernementale. Deuxième problème, c'est il est trop facile de répandre la désinformation sur le web. C'est le grand problème des fake news dont on a énormément parlé au moment de l'élection aux États-Unis. Et le troisième problème, pour lui, c'est la publicité politique en ligne, qui est trop cachée, qui est masquée, et qui devrait être beaucoup plus transparente, comprise. Et puis, en plus, c'est de la publicité qui s'adresse à l'aide de messages personnalisés, et qui donc parfois peut même se contredire, en fait. Le ciblage publicitaire de la publicité politique en ligne est un problème.
C'est le marketing politique via les réseaux sociaux en particulier.
Exactement. Alors, comment résoudre ce problème? Comment sauver le web? Pour Tim Berners-Lee, il y a plusieurs solutions. D'abord, arrêter avec la gratuité en échange des données personnelles. Lui, il prône des abonnements payants, voire ou micro-payants. C'est-à-dire, par exemple, il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de rémunérer les sites à chaque clic avec quelques centimes. Et autrement, sa grande recommandation, c'est de s'appuyer sur les géants du web, en fait, de collaborer avec eux, de les inciter à s'auto-réguler, les inciter à lutter contre les fake news, contre la désinformation, et de les inciter à promouvoir la transparence des algorithmes. On a déjà parlé des algorithmes ici.
Mais c'est un peu ce qu'il propose là, c'est un peu le pacte avec le diable de son point de vue, parce que si il critique l'hypercentralisation d'un web qu'il rêve lui décentralisé, une des causes de ça, c'est que tout le monde passe par Google ou par Facebook.
Bah, sa préconisation est loin de faire l'unanimité, puis on peut se demander si finalement c'est pas déjà trop tard, si de toute façon presque dès l'origine le web et même Internet en soi n'est pas déjà mort, parce que Internet lui-même est né d'utopie. Voilà, je vous recommande la lecture de Fred Turner aux sources de l'utopie numérique, qui raconte effectivement, notamment à travers le parcours de Stewart Brand, comment Internet, l'idéologie en fait qui a permis de construire Internet, est né dans les communautés hippies, a été énormément associé à la prise de LSD. Voilà, exactement. C'est libertaire. Ça s'est fait autour de gens comme Ken Kesey, les Mary Pranksters, donc en fait des hippies qui consommaient notamment les drogues psychédéliques et qui ont conçu ce qu'est l'utopie d'Internet aujourd'hui, une utopie du partage, de communautés affinitaires, d'accès libre et universel. Sauf que ça, on peut se dire, ça n'a jamais existé en fait. La fameuse neutralité du net, qui a été un grand combat, hein.
Le même net pour tout le monde et partout.
Voilà, exactement. Des organisations en France comme la Quadrature du Net sont les principaux défenseurs de cette idée de neutralité du net. On peut se dire que ça n'a jamais existé parce que le web et Internet même est de plus en plus centralisé. La navigation est contrôlée, on l'a déjà dit, par des algorithmes, ceux de Facebook, de Google. C'est-à-dire que votre web n'est pas neutre, il est personnalisé, il est biaisé. Il est en plus de plus en plus contrôlé verticalement, c'est-à-dire que il y a plusieurs couches sur Internet. Il y a les opérateurs qui fournissent les tuyaux, il y a les fournisseurs d'accès, des services type Google, Facebook, puis les producteurs de contenu. Sauf que ces acteurs sont de plus en plus les mêmes, sont de plus en plus concentrés. C'est-à-dire que des services...
Google rachète tout.
Bah, exactement. Par exemple, Google a lancé Facebook. Google Fiber aux États-Unis pour fournir la fibre optique, et donc ils viennent eux-mêmes, ils fournissent eux-mêmes les tuyaux. Et donc, il n'y a aucune neutralité du réseau dès l'origine, en fait.
Donc tout est déjà foutu, c'est ça que vous nous dites, Christophe Payet?
Je dis pas que tout est foutu. Je dis que la neutralité du net n'existe pas, qu'elle est un objectif vers lequel on doit tendre, que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, pour lequel il faut lutter. Il y a un certain nombre d'alternatives qui permettent de tendre vers un Internet plus neutre, plus libre, en s'appuyant sur des technologies comme la cryptographie, le peer-to-peer. Le blockchain, ça permet, on pourra revenir dans d'autres chroniques sur ces technologies-là, mais ce sont des choses qui permettent de redécentraliser le web.
Puis on a noté le sujet de la prochaine chronique, Christophe Payet. Internet, c'est affaire de drogués. Celui-ci est à l'origine, vous nous l'avez dit. Merci beaucoup.
Merci.
Atmen Khalif.
Oui, juste avec nous dans le studio, Petit Cheval Blanc. Tu es un internaute, toi, non?
Oui, c'est vrai, je suis un internaute et c'est vrai que ça m'arrive de voguer, d'aller sur le web.
Et toi, tu es content qu'on pirate tes données personnelles ou pas?
Oui, j'aime bien.
C'est quoi, comme par exemple, tes données personnelles?
Eh ben, la taille de mes sabots, ce que je vais acheter, les selles.
Que tu manges.
Ce que je mange, que je mets comme sel.
Voilà.
Des selles en
jean. Ta compagne et ta famille, peut-être, des photos.
Oui, mais en ce moment, ça va pas fort au niveau de la famille.
Oui, bien, merci, très bonne histoire.
Parce que... ma femme a été abattue.
Ah. Et toi, ça...
Bah, ça m'a fait un choc. Hein.
Ça t'a battu.
Ça c'est, m'a fait un choc. Elle s'est cassée la jambe, et puis bon.
Ah bah, oui.
Elle a été un... Bon, peut-être ce matin, c'est un peu dur de dire ça, mais désolé, désolé d'avoir cette vie.
Bah écoute, petit cheval blanc, c'est un témoignage.
En ce moment, j'ai un petit rhume.
Petit cheval blanc, peut-être qu'on peut vous retrouver un petit peu plus tard.
Beaucoup plus tard. Tu restes avec
nous. D'accord.
Merci à toi.
Salut, enfants.
Il est 7h32. Thierry Paré a mis son plus beau t-shirt rouge. Je sais pas ce qu'il faut en conclure.
Oh, pas grand chose, c'est un t-shirt à la gloire de Léonard Peltier, un prisonnier politique indien aux États-Unis. Un des plus vieux prisonniers politiques du monde d'ailleurs.
Mais comment c'est les infos enfin, qu'est-ce
bah, c'est vrai, t'as raison. Les bureaux de vote vont ouvrir d'un instant à l'autre aux Pays-Bas. Près de 13 millions de Néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi pour désigner leurs députés. Les Pays-Bas inaugurent une série de votes cruciaux en Europe. Les Allemands et les Français suivront. C'est un test important en cette période marquée par le populisme, évidemment. 28 partis sont en lice aux Pays-Bas, dont les deux principaux, celui du Premier ministre sortant et puis le PVV, l'extrême droite emmenée par Geert Wilders. François Fillon a été mis en examen hier dans le Penelope Gate. Il était initialement convoqué par le juge Tournaire ce mercredi, mais le calendrier a été avancé pour éviter la frénésie médiatique. Le candidat de la droite est officiellement poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations déclaratives. On notera que le chef de trafic d'influence, en revanche, lui, n'a pas été retenu. La Syrie, cette vaste salle de torture, ce sont les termes du haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, alors que cela fait tout juste 6 ans aujourd'hui qu'a débuté le conflit syrien, un conflit qui a fait environ 465 000 morts et disparus, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, parce que l'ONU a arrêté le décompte des victimes. La justice suspecte le groupe Renault d'avoir trompé ses clients sur le véritable niveau de pollution de ses moteurs diesel. Un document de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été transmis au parquet. Le cabinet Mercer s'est fait une spécialité, celle de classer les villes, les métropoles plus précisément, où il ferait le plus bon vivre. Au total, 231 villes ont été passées au crible de l'organisme et le résultat, il est sans appel. Pour la 8e année consécutive, c'est Vienne qui arrive en tête de ce classement, la capitale autrichienne devant Zurich et Zurich en Suisse et Auckland en Nouvelle-Zélande. La France, Paris en particulier, est 38e. Juste devant Lyon. Les joueurs du Stade français annoncent un préavis de grève illimité pour dénoncer l'annonce de la fusion de leur club avec le Racing 92, une annonce qui a pris tout le monde de court hier. Il n'y aura pas d'entraînement pour les joueurs du Stade français, du coup, ni de match contre Castres samedi. La Juve et Leicester rejoignent Madrid, Munich, Dortmund et Barcelone en quart de finale de la Champions League. Déjà vainqueur 2-0 au match aller à Porto, la Juventus s'est imposée 1-0 hier soir à domicile. De son côté, Leicester a battu Séville 2-0. Les Espagnols, tenants de la Ligue Europa, c'était triple tenant d'ailleurs, c'était imposé 2-1 à l'aller, donc c'est terminé. Suite et fin des huitièmes de finale de cette Champions League ce soir, Monaco qui s'est incliné 5-3 au match aller à Manchester City reçoit les Anglais ce soir. Et puis l'Atlético Madrid attend les Leverkusen, les Espagnols s'étaient imposés 4-2 au match aller en Allemagne. Un dernier mot pour vous dire que la tempête fait rage aux États-Unis sur la côte nord-est, donc du côté de New York par exemple. Les écoles sont fermées, beaucoup en tout cas. Il y a des milliers de vols d'annulés. Apparemment cette tempête elle est moins sévère qu'annoncée, mais quand on... Si vous avez eu l'occasion de vous rendre à New York, c'est assez impressionnant quand il neige parce que les voitures de police en fait se transforment en chasse-neige dès le matin et donc il n'y a absolument pas de problème comme on peut nous en avoir par exemple à Paris dès qu'il neige ne serait-ce qu'une heure.
Merci pour cette anecdote. Bonjour, Thierry Paré.
Non mais c'est vraiment, il n'y a aucune panique.
Et c'est quoi le critère pour être une ville assez agréable?
Alors t'as raison, c'est important, je ne pouvais pas tout détailler, ça aurait été trop long, mais c'est l'environnement, ouais. La criminalité, la qualité, les transports, la qualité de vie humaine, voilà tout ouais. Ça.
Très bien, c'est bon à savoir, je postule.
Tito, oui.
Je me demande si Thierry Paré n'est pas vendu à des intérêts autrichiens, s'il n'y a pas un lobby autrichien en France, parce que le côté Vienne numéro 1 à Paris, numéro 38, bah allez-y, vive là-bas, je peux vous dire.
Bah oui.
Quant à sa présentation un petit peu tendancieuse de l'affaire Fillon, je peux vous dire que ça ne passe pas ici. Là où je suis, je trouve que c'est une présentation un petit peu, oui, c'est un peu politiquement marqué, parce qu'on ne peut pas juste dire les chefs d'accusation contre François Fillon et ne pas vanter ses valeurs qu'il défend, solidarité familiale, amour de ses enfants, transmission du patrimoine, beaux vêtements, élégance extérieure et tout ça, ce sont des valeurs importantes.
C'est vrai, c'est une faute, vous avez raison.
Il y a d'autres choses qui ne passent pas, notamment le téléphone, Edouard, apparemment.
Le téléphone ne passe pas?
Si, si, on vous entend.
Maman dans ta gueule, elle va pas.
Ça, on a bien entendu. Tito a dégainé sa plus belle guitare pour vous.
Oui, en vrai.
Après Pays-Bas, météo.
Alors aujourd'hui, bonjour, c'est la Sainte-Louise. Vive les Louises et les Louisettes, bien sûr. Les températures seront à Agen de 4 à 19, à Avignon de 6 à 22, à Bordeaux de 5 à 20, Clermont-Ferrand de 4 à 17, Dreux de 3 à 13, Limoges de 5 à 19, Melun de 4 à 13, Montpellier de 7 à 21, Paris de 4 à 14, Poitiers de 5 à 16, Tours de 6 à 14 et Moscou de 1 à 9. Ta-ta-ta, rumbera, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, rumbera, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, rumbera, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, rumbera.
Quelle énergie. Merci pour cette, merci pour cette météo magnifique. Je voudrais juste vous dire, je ne sais pas dans quel monde vit Tito, c'est, il vit dans le monde enchanté de Patrick Sébastien. Le fait que ça, l'idée que sous prétexte que c'est la Sainte-Louise, on va faire la fête à Louise, moi pour la Saint-Édouard, tout le monde s'en fout.
Ah ouais. Alors, oh, on regardera ça, écoutez,
mon petit Calimero.
Allez, bonne fête les Louis et les Louises. Ouais. Les jeunes.
Oui. Un peu de publicité maintenant, je vous l'annonce, hein, c'est un peu solennel, c'est un moment de recueillement et on retrouvera Jack Souvent juste après.
7h-9h, plus près de toi.
7h41, nous sommes toujours avec notre invité exceptionnel ce matin.
Oui, petit c'est, cheval blanc, c'est ça?
C'est petit cheval blanc, bonjour les amis.
Ah, est-ce que vous aviez un rhume tout à l'heure, j'ai cru que vous aviez perdu.
Non, j'ai pas un rhume. Aujourd'hui, je voudrais parler de la prévention routière. Et on est vraiment désolé pour les clips qu'on fait au cinéma et à la télévision, parce que c'est vrai que c'est un peu violent, mais oui. On n'a pas d'argument, ce qui fait évidemment, quand on est jeune, on aime boire, et évidemment qu'on aime conduire en buvant. Mais,
alors voilà, rappelez-nous les règles de sécurité, peut-être, petit cheval blanc.
Eh bien, tout simplement, une fois qu'on est dans sa voiture, de peut-être ne pas démarrer.
Et mais vous arrivez à démarrer parking. Avec vos sabots?
Hein?
Avec les sabots, vous arrivez à tourner la clé?
Ben non.
Ah bah...
Mais moi, je rentre à pied, je sais pas.
Ah d'accord. Vous êtes capitaine de soirée, alors?
Ben, dans un sens, oui, je suis capitaine de soirée.
Jack Souvent est dans la rue.
En plus.
Oui, moi je suis... Bonjour à tous, moi je suis dans le hall du Louvre avec Youssouf, qui est agent de sécurité, et qui m'a ouvert les portes, parce qu'il y a les grilles quand même qui sont ouvertes du côté fermé, et on parle, il disait, je suis le gardien de la beauté, mais pas assez bien payé.
Ouais, bah on est au musée du Louvre, on travaille la nuit, et après que le musée est fermé, on assure un peu la sécurité, quoi, donc voilà.
Et alors, on parlait de musée en Afrique, on dit qu'il n'y a pas de musée en Afrique, vraiment.
Ben oui, il n'y a pas de musée, puisque on a tout ce qu'on avait, ben, il n'y a rien qui reste, les musées qui sont là-bas, ils sont pas trop... Il n'y a pas trop de statues, donc il y en a quelques-uns, mais franchement, il n'y en a pas assez. Et par contre, on a des gens qui détiennent un peu l'histoire de l'Afrique, qui sont un peu appelés les narrateurs chez nous, et qui détiennent l'histoire du passé. C'est nous, on les appelle, plus ou moins, je suis guinéen, on les appelle les griots.
Les griots. Monsieur, ouais, bonjour monsieur, vous êtes un griot vous-même, vous, non?
Non, mais je ne suis pas un griot. Par contre, ces griots-là, et, comme vous le connaissez bien,
oui.
Et ils détiennent vraiment l'histoire.
L'oralité, on dit.
L'oralité, exactement. Voilà. Même les archéologues ou les historiens qui vont là-bas pour avoir vraiment des sources d'informations, vous êtes obligé de passer par eux.
De village en village, de village en village, ils passent, ils racontent l'histoire de la journée. Voilà, c'est
ça. Une chose qu'on se disait aussi, c'était que les facteurs de masques aussi, des fois, enterraient les masques des rituels dans la terre. Et donc, le musée était la terre était le musée.
Oui, tout à fait. La terre était le musée. Et puis, vu que. On n'avait pas d'espace où les placer, du coup, on faisait comme ça. Et ce qui était aussi un peu paradoxal, il y avait des événements rituels qu'on organisait avec les personnes qui sont un peu dissimulées dans les masques, qui faisaient peur aux enfants, et comme quoi, si vous toussez, vous allez avoir un peu... soit vous allez tomber malade,
une malédiction,
la malédiction. Mais c'était pas vraiment ça, puisque moi je suis forestier, guinéen forestier, qui fait frontière entre la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Donc je me suis fait attraper à plusieurs fois, mais j'ai pas eu de conséquences directes. Donc ça, Il faut ça pour faire peur, c'est pas...
C'est pour
pas
faire peur.
Réalité, voilà, pour faire
monsieur,
peur
monsieur, oui. Vous disiez que vous étiez gardien de nuit au musée du Louvre. Est-ce qu'il y a toujours des fantômes au musée du Louvre le soir un peu?
Ah, Napoléon, il est parti avec tout. Hein. Il n'y a pas de fantômes au musée, là.
Il n'y a plus Belphégor, il n'y a plus Napoléon, il n'y a plus tout ça.
Ben, ils sont partis avec nous, c'est nous qui sommes là, on assume. Hein, voilà.
Est-ce qu'il y a des fêtes la nuit? Qu'est-ce qui se passe au musée la nuit?
Ben, écoute,
t'es parti de cache-cache?
Non, mais il n'y a pas... Il n'y a rien. On est là pour éviter des éventualités, quoi. Pour essayer d'être un peu en alerte, vu que tout ce qui se passe.
Oui.
Voilà.
Et là, vous avez fini, vous allez vous coucher, c'est ça? Ou Jacques, souvent, va vous payer un café?
Non, Jacques, je ne pense pas qu'il a des sous, parce qu'il m'a dit qu'il a trop marché.
Oui.
Donc, moi, j'attends 9h, là, pour rentrer chez moi, aller dormir.
Bon, très
si
bien.
On a le temps, on avait une chose que moi, je trouvais assez intéressante, parce que Youssouf est mandingue. Donc, mandingue, c'est les dioulas et tout ça. Et donc, il y a ces fameuses... salutations quand on se dit bonjour. Vous dites, vous ici, on se dit bonjour, bonjour. Des fois, on se dit même pas bonjour. Et oui.
Allez-y, alors rapidement, essayez de faire un petit bonjour.
Oui, la signification, non, la signification de tous ces bonjours. Ben, j'ai dit à Diak que le matin, franchement, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et comme nous, on a l'habitude de faire, c'est culturel, c'est nous et traditionnel. Et il ne suffit pas de dire bonjour à quelqu'un parce qu'il a toute une journée à passer, il a des ennuis, il a des stress. Et c'est mieux que ce bonjour-là soit accompagné des bénédictions pour lui, pour ses proches, pour ses enfants, pour ses personnes, pour ses ancêtres qui sont morts. Et pour moi, c'est très important.
Ouais.
Parce que n'importe qui, on ne sait pas à qui peut venir la bonne parole et à qui, plus ou moins je crois, à qui Dieu peut accepter sa parole. Donc il est important de faire la bénédiction. Oui.
Merci beaucoup monsieur, on ne veut pas vous contrarier ni avoir la mauvaise malédiction. Alors on vous dit au revoir. Merci.
À tout à l'heure Jacques.
À très vite.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
C'est un autre rituel ici le matin, un enfant, un poème.
Bonjour Solal.
Bonjour.
Tu as écouté le petit cheval blanc? Tout à l'heure, le monsieur qui faisait...
Oui.
Il t'a fait rire ou pas?
Oui.
Il t'a vu qu'il a un rhume, hein? Il est malade. Toi, t'as des animaux, toi?
Tu aimes les animaux? Bonjour Jean-Noël Mistral, le poète des chemins et des poussiens. Tu aimes les animaux?
Oui.
Tu préfères quoi comme animal?
Je sais pas.
Le pingouin?
Tu en as un, tu m'as dit. Tu as un chat, non? Comment il s'appelle?
Nova.
Ah, le chat s'appelle Nova? Bah, c'est génial.
C'est une fille.
Ah, en plus, c'est une fille. Il faut l'amener. Voilà. On va faire ton petit poème. Parce que je crois qu'il est temps de faire de la poésie. Tu es prêt?
Oui.
C'est à toi.
Le chat et le soleil. Le chat ouvrit les yeux. Le soleil y entra. Le chat ferma les yeux. Le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir de morceaux de soleil. Maurice Carême.
C'est bon. C'est très super. Très bien dit.
Bravo.
Tu as pris bien le temps comme de le dire et tu as vécu.
Tito
tous les
est
mots.
Ravi.
Tu as vécu tous les mots. Bravo.
Moi, j'ai cru voir voler un signe au-dessus d'un étang et ce signe ne jamais s'écraser, toujours être alerte. Tu étais vraiment magnifique. Vraiment,
Tu comprends ce que dit ce monsieur? Voilà, c'est une forme de compliment.
Parce que je parle pas vraiment comme les autres, je parle en image, parce que je suis poète. Hein. Ouais. Je parle en émotion. Et j'ai senti beaucoup d'émotions, surtout de la façon dont tu avais de parler. Tu vas aller loin dans la poésie.
Voilà, ça t'a plu de venir dire la poésie à la radio?
Oui.
Il y a ton papa et ta maman qui sont là. Ton père a un très beau costume. Est-ce qu'il a coûté cher?
Je ne l'ai pas acheté avec lui.
Ah, c'est ce
qu'on lui a offert aussi.
C'est ce qu'on lui a offert peut-être. Voilà.
Jean-Noël Mistral.
On va te laisser y aller, je pense.
Bah, attendez, pourquoi Solal, vous voulez écouter?
Vous êtes un
grand bonhomme. Vous voulez écouter le poème de Jean-Noël Mistral, cher Solal?
Oui.
Voilà, alors à toi.
À moi, Jean-Noël. À toi, Jean-Noël Mistral. Merci, Jean-Noël. Toi aussi, non, toi. Ce poème s'appelle « Une femme s'est posée ». Est-ce que je peux avoir le silence? Une femme s'est posée sur l'oreiller de mon œil. Ses ailes se sont repliées et le temps a changé. Au lieu qu'il faisait froid, alors il faisait tiède. Et des eaux sablonneuses de la rivière où j'étais est sortie une lyre. Et nous avons chanté. Elle avait ce regard inquisiteur qu'ont les merles lorsqu'ils regardent une chenille. Moi, je la regardais sans comprendre, parce que sa beauté est très trop grande pour mon petit cerveau. Elle a regardé mon paquet de gâteaux, alors je lui donnais un gâteau. Et puis, elle a fait le tour de moi, elle a senti mes cheveux, elle a touché mes mains. Puis, elle m'a redemandé un gâteau. Elle avait l'air vraiment bien. Elle a fait une drôle de tête, puis...
Oui, c'est cela.
Elle a fait un petit rot. Si mignon qu'ont certaines femmes lorsqu'elles volent en triangle dans le ciel en sautant un repas. Puis, elle s'est endormie au creux de mon épaule. Alors, je l'ai couverte d'un châle de toile de bois et j'ai attendu. J'avais des crampes, mais j'essayais de ne pas bouger. J'ai regardé la Durance qui chaillait les troncs d'arbres. Je regardais des libellules en leur faisant signe de silence. Quand elle s'est réveillée, je ne me sentais plus mon bras. Alors, elle m'a regardé et elle m'a souri. Et puis, elle a déplié ses ailes. Et, avec son museau, elle a frotté le mien. Puis, elle s'est envolée au loin.
Oui,
c'est bien.
Non, c'est bien, mais c'est quelqu'un que vous avez aimé, que vous avez connu.
Je n'ai pas envie d'en parler.
Mais si, c'est important d'en parler, parce que là...
À peine un centimètre de l'horizon.
Non, mais je vous ai demandé
elle
si...
Elle formait un V en contrôle.
Si cette personne vous avait...
J'ai bientôt fini. Je l'ai saluée une dernière fois, et oui. Puis voilà. Il faut bien qu'elle vive, qu'elle trouve la chaleur du confort. Parce que les os des poètes...
On avait compris, mais on voulait savoir si vous, ce poème...
J'ai plus qu'une phrase.
Bon, non mais...
Les os des poètes sont beaucoup trop cagnes pour elle.
Avec Solal, on voulait comprendre pourquoi vous aviez écrit ce poème.
Parce que je trouve que de temps en temps, c'est important de parler de ses souvenirs, mais en les transfigurant dans une histoire comme ça.
Dans des mots qu'on ne comprend pas, voilà.
Si, vous n'avez pas compris ?
Pas tout, non. Mais parce que j'ai senti à un moment donné la petite larmichette.
Peut-être qu'on peut reprendre le poème depuis le début, peut-être en le disant.
Non, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Mais bravo quand même.
On peut le faire depuis le début.
Non, très bien. Qu'est-ce que tu as pensé du poème, Solal ?
Très bien, merci Solal.
Je pense qu'il est temps d'aller prendre un croissant et un café, un petit chocolat. Tu veux un jus d'orange ? On l'a tous mérité.
Merci Jean-Noël Mistral. C'était vraiment
7h-9h plus près de toi.
Après les poèmes de Jean-Noël Mistral et Solal, et juste avant la bourse, restons un petit peu dans l'univers de la poésie, Thomas.
Ah oui, il y a la bourse maintenant. Non, alors oui, absolument. On va rester dans ce domaine-là à travers l'évocation d'un beau livre, beau comme un pavé, rare. Et ça manquait une somme qu'on peut prendre un an ou deux tranquillement pour la décortiquer à son rythme. Ça s'appelle Un nouveau monde, poésie en France, 1960-2010. C'est chez Flammarion, collection Mille et une pages. Et c'est une anthologie de la poésie française contemporaine sur une période pas forcément très connue, 1960-2010, en tout cas moins traitée par les autres anthologies, et c'est traité à travers ce livre, Un nouveau monde, par Isabelle Garon et Yves Dimano, qui est là. Isabelle Garon, bonjour, vous êtes avec nous en studio.
Bonjour.
Et Yves Dimano est en ligne avec nous, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux auteurs, poètes et traducteurs, je vous entends rire Yves Dimano, j'ai déjà dit une bêtise ?
Non, pas du tout, je ris souvent.
Ah, d'accord, bon, tant mieux, c'est bien, mais c'est vrai qu'elle est joyeuse, cette anthologie aussi. Et c'est une anthologie qui est, présentée par vous deux comme un passage. Alors, qu'est-ce que ça signifie, un passage ? Je sais pas, par exemple, Yves Garon. Pardon, je vous dis, mais non, j'ai parlé d'Isabelle Garon.
Vous allez nous faire rire, Thomas. Là,
c'est parti. Isabelle Garon, qu'est-ce que le passage ?
Un passage, on passe d'un état à un autre, on est... entre deux situations, il y a un avant et un après. Il y a donc, en ce qui nous concerne, un regard porté sur ce qui se passe après-guerre, mm-hmm. après une poésie de la résistance, et qui se tend vers, on ne sait pas quoi, vers où, on ignore un peu, mais en tout cas, on est dirigé ailleurs.
Mm-hmm. C'est une période de multiples transformations. Il y a plusieurs vagues à l'intérieur de ces 50 ans. C'est la multiple métamorphose de la poésie, Yves Dimano, sur cette période.
Oui, c'était d'ailleurs le principal objectif du livre, c'était de mettre un petit peu tout ça en perspective, parce qu'il s'est passé énormément de choses pendant toute cette période, et en plus avec des grands changements d'approche, de considération et de composition, de manière de composer la poésie pendant tout ce moment-là. Et donc, ce passage est aussi une traversée d'un territoire que les gens connaissent mal, parce que voilà, c'est un, par nature, la poésie est un domaine un peu réservé. honorée, dirons-nous. Mm-hmm. Mais en plus, elle est devenue au fil de toute cette période un peu plus confidentielle qu'elle ne l'était encore avant. Donc le but du livre, c'est aussi d'abord d'aider le lecteur ou la lectrice novice débutante à y voir un petit peu plus clair, quoi. Voilà.
Et sur cette période-là, d'ailleurs, la poésie est sortie du livre. Alors vous faites un livre, c'est un livre, cette anthologie, mais c'est aussi pour rendre compte d'une poésie qui est devenue ou redevenue d'ailleurs orale, performative. On a parlé de la poésie action, de la poésie debout. Vous en rendez compte aussi, Isabelle Garon?
Oui, ce qui est important, c'est d'ouvrir un petit peu le champ de la représentation de la poésie et du poème, puisque le fait de sortir du livre, il y a tout un chapitre consacré aux poètes qui donnent de la voix, avec l'émergence de la performance, notamment le travail de Ben Heitzig ou de Bory. Il y a aussi Serge Pey. Et effectivement, cette question, c'est de passer à l'action, comme dans les arts plastiques, on est passé aussi à l'action, et de vous mentionner la notion de passage, on est dans quelque chose qui est en mouvement, c'est pas fixe. Et tout le propos de l'anthologie, c'est aussi de renoncer à la notion d'histoire, d'être après la question de l'histoire, tout en se rendant bien compte que des choses ont eu lieu, et de manière définitive, et de manière politique aussi.
De manière politique, parce que ?
Eh bien, parce que l'on sort des vieilles gardes et des vieilles lunes de la représentation de la poésie, tout en préférant se dire qu'il y a une multitude de formes, et que ces formes ont travaillé avec l'émotion, avec la rigueur et avec la tradition, ce qui est un gros challenge quand même.
Il y a toute une nouvelle génération qui a aussi sa place. Il y a une sécession belge, ça c'est un chapitre, la question de la Belgique à l'intérieur de cette histoire de la poésie contemporaine. Évidemment, il y a les revues, revues de littérature générale, revues Java, qui ont été des étapes importantes de cette histoire contemporaine. Et ben, je vous propose qu'on en parle après le journal de cette histoire et toujours de ce nouveau monde que vous nous présentez, Yves Dimano, Isabelle Garon. Poésie en France, 50 ans dans une anthologie de la poésie contemporaine. Il y a plein de noms dont on va parler tout à l'heure et autant d'écritures différentes.
Il est 8h. Les infos, Thierry Paret.
150 députés néerlandais sont élus tous les 4 ans à la proportionnelle. Et vous savez quoi? C'est aujourd'hui, justement, ça tombe très bien. Près de 13 millions de Néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi. Les Pays-Bas inaugurent une série de votes cruciaux en Europe. Les Allemands et les Français suivront. C'est une élection qui comporte plusieurs particularités. D'abord, il n'y a qu'une seule circonscription, c'est le pays. Les députés sont donc élus au niveau national. Ensuite, le seuil théorique pour obtenir un siège, il est extrêmement bas, hein, puisque un score de 0,67% est théoriquement suffisant pour être représenté à l'Assemblée. 28 partis sont en lice pour ce scrutin. Selon les tendances, une douzaine pourrait obtenir des sièges, dont le VVD du Premier ministre sortant libéral et puis le PVV du leader d'extrême droite, Geert Wilders. Le Parlement vénézuélien, où l'opposition est majoritaire, déclare le pays en crise humanitaire sur le plan alimentaire. Le Venezuela est plongé dans une crise économique très profonde avec une pénurie qui frappe 68% des produits basiques et une inflation incontrôlable. La pauvreté toucherait plus de 80% de la population. Ça fait tout juste 6 ans ce mercredi qu'a débuté le conflit syrien. Oui, 6 ans déjà. Un conflit qui a fait environ 465 000 morts et disparu, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONU a arrêté le décompte des victimes. Donald Trump se serait acquitté de 38 millions de dollars d'impôts en 2005. C'est une annonce de la Maison Blanche. Une première sous la Ve République. Un candidat à la présidentielle est donc mis en examen, François Fillon. Il était initialement convoqué par le juge Tourneur ce mercredi, mais le calendrier a été avancé pour éviter la frénésie médiatique. Le candidat de la droite est officiellement poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations déclaratives également. En revanche, le chef de trafic d'influence, lui, n'a pas été retenu. Les mots ont fusé, tranchant. À 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Manuel Valls a réuni ses soutiens hier soir à l'Assemblée nationale, alors qu'il s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire du PS. L'ancien Premier ministre a confirmé devant ses amis qu'il ne donnerait pas son parrainage à Benoît Hamon, sans pour autant rallier Emmanuel Macron. La justice suspecte le groupe Renault d'avoir trompé ses clients sur le véritable niveau de pollution de ses moteurs diesel. Un document de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été transmis au parquet. Collins Ngie est un jeune Camerounais de 17 ans qui vit à Bamenda. Il vient de remporter la compétition du Google Code in Contest. Il est le premier noir et africain à être vainqueur de cette compétition. Le Google Code in est une compétition de hacking organisée par Google pour les pré-universitaires âgés de 13 à 17 ans. Il y avait 1300 candidats cette année de 62 pays. Les joueurs du Stade français annonce un préavis de grève illimité pour dénoncer l'annonce de la fusion de leur club avec le Racing 92, une annonce qui a pris tout le monde par surprise. Il n'y aura donc pas d'entraînement pour les joueurs du Stade français, ni de match d'ailleurs samedi contre Castres. Monaco a 2 buts à rattraper. Les Monégasques reçoivent Manchester City ce soir en 8e de finale de la Champions League. Ils s'étaient inclinés 5-3 au match aller en Angleterre. De son côté, l'Atlético de Madrid attend Leverkusen. Les Espagnols s'étaient imposés 4-2 au match aller en Allemagne. Et puis hier soir, Leicester a sorti Séville et puis la Juve a sorti Porto.
D'accord.
C'est bien de la poésie. Hein.
Comment
les infos, c'était de la poésie?
Je ne sais pas, on peut peut-être dire ça. Je vous rappelle, ou je vous annonce qu'il y aura un live exceptionnellement aujourd'hui, mercredi, en fin d'émission. On écoutera le live de Kaja Bonnet, une très jolie voix donc à découvrir à 8h50. Et puis également sur Facebook Live pour avoir les images. On va se replonger dans 50 ans de poésie française, un important pavé que vous avez sous les yeux, Thomas.
Un beau pavé qui manquait, effectivement, on en parle avec les deux auteurs, Isabelle Garon et Yves Dimano. Yves Dimano est en lien avec nous depuis Bruxelles, Isabelle Garon est avec nous en studio. Et c'est important de préciser Bruxelles parce qu'il y a tout un chapitre dans cette anthologie sur la Belgique. Il y a une sécession belge, comment on peut entendre ça, cette sécession poétique belge, Yves Dimano ?
Oh, c'est une vieille passion et aussi une manière de réintégrer tout un pan de la poésie qui s'est faite en Belgique francophone et qui est très 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 peu connue en France et qui a une vraie singularité qu'on peut difficilement dissocier de notre propre histoire poétique tout en étant évidemment pas étrangère à ce qui s'est passé en France. Donc je voulais un peu marquer le coup, parce qu'en dehors de ça, le livre concerne uniquement la poésie en France. Il n'y a pas la francophonie, si vous voulez, dans cet ouvrage qui nécessiterait un volume à elle seule. Mais la Belgique est une espèce d'exception d'entité singulière. D'ailleurs, il y a d'autres poètes belges en dehors de ce chapitre. Mmh. Qui fait un petit peu le rappel de ce qui s'est passé en Belgique. Il y a d'autres auteurs qui sont dans d'autres sections du livre, parce que comme on ne l'a pas encore tout à fait spécifié, le livre n'est pas seulement une anthologie, c'est aussi le récit et assez détaillé, explicite des grandes tendances qui se sont succédées ou qui se sont affrontées éventuellement au fur et à mesure de ce demi-siècle.
Ah oui, parce qu'on s'affronte dans le milieu de la poésie, Isabelle Garon, non?
C'est difficile comme question, mais oui, on s'affronte parce que on est tellement peu entendu et tellement peu visible dans cette communauté qu'il y a quelque chose aussi qui s'exaspère alors qu'on travaille sur des questions de fond comme beaucoup d'entre nous.
Mmh. D'ailleurs, sur le fond, est-ce qu'il y a des sentiments nouveaux qui se dégagent? Parce que là, on est un peu sur la forme. Mais pendant la guerre, sur Aragon, tout ça, on parlait vraiment de avant, il y avait des sentiments féminins, il y avait les ruptures, tout ça. Et là, on est parti, je veux dire, après la guerre.
C'est quoi l'avenir de l'imaginaire, en gros?
Voilà, c'est ça, l'avenir de l'imaginaire.
Déjà, parlons du présent de l'imaginaire.
Ben oui, mais en fait, vous parlez vous dites que vous êtes en train d'essayer de chercher la limite entre les années 60 et maintenant, et vous avez, il y a une mutation de l'imaginaire, donc de la poésie.
Oui.
Et
bon, on n'est pas dans une logique académique à décider ce qui doit avoir lieu ou de ce qui
va prévaloir. Qu'est-ce qui affleure?
Ce qui affleure, c'est déjà un problème de représentation ou de reconstruction par rapport à l'histoire. Quel archaïsme on reprend? Il y a une ouverture très grande aussi à tout ce qui est l'ethnopoétique, c'est-à-dire travailler aussi avec les chants des communautés que l'on ne connaît pas ou qui sont peu visibles, peu entendues de la tradition orale. Ça, c'est un point très important. Donc le livre, c'est une époque depuis l'invention de l'imprimerie. Qu'est-ce qu'on fait du livre de poèmes plutôt que de la poésie? Je préfère parler du poème, personnellement. Et qu'est-ce que c'est que cette pratique dans le monde contemporain? Alors qu'il y a eu les conflits majeurs que l'on connaît, qu'est-ce que c'est que la question de la beauté dans le chant?
Mais justement, c'est ce qu'on vous pose.
Mais oui, mais c'est exactement ce à quoi s'exposent les poètes aujourd'hui, c'est-à-dire avec la littéralité. Où est-ce que je m'arrête? De quoi je parle? Et la question, c'est le réel. On a dit tout à l'heure que le journal tel qu'il a été énoncé était de la poésie. Oui, parce qu'on est un affrontement au réel. Qu'est-ce que je vois? Comment je le dis?
Oui, la question de la guerre, par exemple, au centre de l'œuvre de quelqu'un dont vous parlez dans l'anthologie, qui est Jean-Michel Espitalier, qui était à ce micro il y a quelques semaines. Et puis, il y a une jeune génération qui est notamment représentée par les éditions Aldante, assez vivace, et justement, qui parle haut, qui parle fort et qui connaît une certaine violence aussi.
Oui, oui.
Asielo, par exemple, des gens comme ça, Nkawala.
Oui, et il y a un chapitre consacré à le Dante, dont Yves d'ailleurs peut rendre compte assez attentivement. Et puis, on fait une part aussi importante à un des fondateurs, d'un des renouveaux de la poésie contemporaine ou du temps présent, qui est Christophe Tarkos.
Christophe Tarkos, poésie orale aussi, et puis...
Poésie écrite aussi,
bien sûr. Et,
oui, Thomas.
Oui.
Excusez-moi, je suis en direct, là, j'écoute, c'est formidable, et je vous trouve très agressif, Thomas, et je trouve que c'est dommage de parler de la poésie, qui est normalement une terre de paix, de réconciliation, une terre de lumière, dans ces termes, avec cette agressivité-là, et ce sens de la provocation que vous avez, et je trouve ça terrible. Je trouve
il manque un chapitre sur le café dans la poésie, je pense. C'est peut-être l'effet du café. Par contre,
est-ce qu'on peut avoir des extraits de poèmes, parce que j'ai eu beaucoup de monde poète. Moi, je suis un jeune auditeur bachelier, j'aimerais des extraits de poèmes.
Atmen Kelly va lire un extrait de Dévotion.
Je vais essayer d'en lire un que je découvre qui s'appelle
Ça va être joli.
Aux orties et aux pierres. Aux mathématiques sévères, aux traits mal éclatés de chaque soir, aux rues de neige sous l'étoile sans limite, j'allais, je me perdais. Et les mots trouvaient mal leur voix dans le terrible silence, aux mots patients et sauveurs. Voilà.
Voilà une dévotion d'Yves Bonnefoy.
Oui.
Oui, Edouard, ça vous a inspiré quelque chose.
Beau, le grand Yves Bonnefoy, je suis très heureux d'en avoir entendu ce matin.
Voilà, et certaines grandes figures comme Jacques Roubaud aussi qui sont évoquées dans cette anthologie.
Tout à fait. Et n'oubliez pas les femmes, une grande émergence des femmes dans la poésie.
On n'oublie jamais les femmes.
On les a citées. On en a cité quelques-unes. Merci beaucoup.
C'est l'engramme. Les femmes.
C'est le débat suivant. Y a-t-il trop de femmes en France en ce moment? C'est un grand débat qui aura lieu, tout ça. Et ça va être au cœur du débat politique.
Et donc, ça l'est déjà.
Je rappelle le titre, Un nouveau monde, Flammarion, poésie en France, 1960-2010. On a donné juste un extrait, un tout petit extrait de ce que c'est.
Oui, le 24 mars, il y a une présentation à la Maison de la Poésie où on peut écouter des extraits du volume, et ainsi que le 24 avril, sous la voix de Sophie Bourrel. Venez nombreux, merci.
Voilà, ça se passe à Paris. Merci à vous, merci à vous. Yves Dimano d'avoir été en ligne avec nous depuis Bruxelles.
7h, 9h, plus près.
N'écoute pas les gens qui ne voient pas les choses comme ça.
7h, 9h, plus près de toi.
On écoutait Voilà à l'instant avec le titre Pour la vie. Tout de suite, Tito et son groupe.
Il s'appelait Lactarus. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. C'est à lui maintenant.
Bonjour les enfants.
Petit cheval blanc.
Bonjour.
Maintenant
qu'on se connaît, on peut se parler.
On est dans la même écurie, qu'on sent tous le poney. Je voulais juste te dire qu'on est très content de t'avoir.
Je vais te dire une chose, Antman. Moi aussi, je suis bien content d'être là.
On voulait savoir un petit peu ton opinion, petit cheval blanc, sur ce qui se passe en ce moment dans le monde politique.
C'est pas facile d'analyser tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande confusion qui s'est abattue sur le monde, comme un gigantesque brouillard. C'est un peu l'Angleterre, j'ai envie de dire. On est un peu à Londres, mais au niveau politique.
Ah, donc vous voyez tout ce qui se passe, là.
Oui, Et juste, toi, tu as des devoirs vis-à-vis de ta communauté de cheval. Tu voudrais te présenter,
je vais essayer de tenter de me présenter. Quoi?
Non, rien. Tu as tes 500 signatures ou pas?
Je n'ai pas mes 500 signatures encore, mais je vais peut-être essayer.
Tu as fait le tour de tous les box et tout, tu t'es dit...
Quoi?
Des box à chevaux.
Oui.
Comment ça se passe?
J'essaye de casser le sketch là.
Oui, j'ai l'impression. Mais il faut le reprendre. Tu remontes en selle, mon grand.
Parce que
allez, tu remontes, tu cravaches.
Casser les choses. Qu'il faudrait que je prenne mes responsabilités vis-à-vis de la sécurité routière surtout. Puis parce qu'évidemment, c'est mal fait. On pourrait avoir un peu plus de sécurité au niveau de la route.
Oui, c'est un débat récurrent.
C'est un débat récurrent qu'on a avec nous, les chevaux.
Et toi, tu as un fait précis qui te permet de dire, enfin, qui te pousse à parler de la sécurité routière, c'est-à-dire, tu connais quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose de grave?
Je sais dire que ça, c'est...
Petit cheval blanc, je suis désolé de vous interrompre, mais il est temps de partir dans la rue.
Oui, on est... Allô?
Allô, oui.
Oui, alors j'ai traversé la Seine du Louvre et je me suis retrouvé rue des Saints-Pères où j'ai rencontré un peintre un peu clochard qui s'appelle Marco Polo, qui faisait des peintures. Puis j'ai avancé, je me suis retrouvé dans la rue de Verneuil, en fait, et je suis en face de l'ancienne maison de Gainsbourg.
Maison de Gainsbourg.
Oui, c'est la maison de Gainsbourg, oui. Et alors, je viens de rencontrer une dame, je ne sais pas comment vous vous appelez.
Jeanne Birkin.
Marthe. Oh là là, non, hein, non. Vous travaillez, vous êtes femme de chambre,
hein. Oui, à l'hôtel Verneuil. Voilà.
Et donc, vous étiez en train de donner, il y a aussi quelqu'un qui est dehors qui...
Oui, c'est quelqu'un qu'on connaît, oui. Et je donne le petit déjeuner tous les jours, le matin, je le donne.
Donc, c'est quelqu'un qui est devant, c'est quelqu'un qui est posé devant la maison de Serge Gainsbourg avec une couverture qui dort là, et vous lui apportez à manger ?
Oui. Ben oui, tous les jours.
Cette maison, elle est couverte de tags, de messages, de
dessins,
de peintures.
Oui, les dessins, oui, chacun, si tu viens, tu dessines, tu marques le mot que tu veux dans le mur, et c'est comme ça que ça se passe. Et chaque fois, on vient, on enlève, les autres personnes, ils viennent, ils commencent encore. Et tout le monde vient, il fait des photos, il y a des gens qui s'échangent même là, pour s'habiller d'autres habits, pour faire des photos, et ils filment aussi. Et quand nous, on sort, il y a des gens qui disent, tu peux m'aider pour faire une photo? Ben, d'accord, ben, on vient comme photographe.
Et ils se déguisent, ils s'habillent en comment? Ils se déguisent en Gainsbourg?
Non, pas du tout, C'est-à-dire... Ils s'échangent les habits, je ne sais pas pourquoi. Moi, je regarde, mais je ne sais pas pourquoi ils changent les habits.
Ah bon?
Ils font des photos.
Oui, il y a des gens qui viennent, qui mettent des boissons dedans, des cigarettes, tout, on jette...
Dans la grille?
Oui, dans la grille, et ça tombe dedans, et même des baskets et tout ça, on jette dedans. Et moi, une fois, j'ai dit, bon, un jour, je vais prendre un bâton, mais je vais retirer tout. Mais, qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Donc, ils jettent des paquets de cigarettes et des...
Oui, tous les dents, oui. Même des baskets, ils les jettent des dents. Ouais.
Oui. Cette maison, elle n'a jamais été habitée. Hein.
Non. Il y a des gens qui viennent. Mais ils ont fait un musée. Pour visiter, ça faut prendre dans l'Internet. C'est les rendez-vous, tu viens visiter. Ah, oui. C'est un musée.
Je ne savais pas.
Mais elle n'a pas, pas été revendue, cette maison, je crois.
Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout.
Mais je pense que c'est un hommage à Gainsbourg, hein, de jeter des cigarettes, oui. Tout ça, et tout, des baskets.
Oui. Il sera peut-être temps de refaire la façade, quand même, parce que c'est un peu cracra, tous ces graffitis, non?
Oh non, c'est bien comme ça, non.
Le graffiti n'est jamais cracra.
Non.
Qui veut nous chanter un petit peu de Gainsbourg, là, pour conclure?
Bah, je peux dire que...
Ah non.
Comment ça,
non?
Ah bon?
Je ne chante pas, j'arrive pas à les chanter... Non, moi j'écoute seulement quand les gens chantent, mais moi-même non, je chante pas.
Il y a des gens qui chantent devant la façade.
Ah ben oui, il fait tout là. Hein. Ben oui.
On a quelques...
les gars, on vous laisse redonner.
Oui.
Je vous en ai bavé, pas vous, votre amour.
Faites chanter la dame, Jacques.
Allez travailler, pardon.
Merci, messieurs.
Salut.
Allô ?
Oui.
Oui.
Ici Bébert au téléphone.
Ah, Bébert.
Correspondant. Ces imitations de Gainsbourg ce matin m'ont fait penser au Michel Leb de la grande époque.
C'était moi, Edouard. C'est gentil, merci.
L'Africain. On était vraiment dans le même esprit.
Edouard.
Préparez bien ces accents. Si, vous en êtes là, messieurs. Je peux vous dire que là, c'est d'un très petit niveau. Voilà.
Michel Leb n'imite pas Gainsbourg, je crois. Il imite plutôt...
Non, je parlais d'équivalence.
Ah, d'accord.
C'est d'être un petit peu vigilant sur les mots. Je suis très précis pour remettre les mots dans le contexte. Je veux dire que c'est l'équivalent, si vous voulez, de la vision de l'Asie et d'autres cultures par Michael Leeb. Michael Leeb, qui est le vrai nom de Michel Leeb, je rappelle. Michael Leeb.
Oui, qui remonte sur scène au Châtelet à la rentrée. Là.
Qu'est-ce qui se passe en plateau?
Eh bien, on a Marie Misset ou son imitatrice, on ne sait pas trop.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pardon,
bonjour.
Attendez, ce que je vais faire, c'est boire un tout petit peu d'eau avant de parler pendant 4 minutes de suite. Et moi, je m'y attendais pas du tout, j'avais pas encore parlé depuis ce matin à des gens. Alors, ce matin, dans la presse en une, l'UMA se plaint que les débats soient confisqués dans cette campagne présidentielle. Le Parisien et le Canard enchaîné se focalisent sur la saga François Fillon. Le Parisien s'interroge dans son édito. Au-delà de son électorat très resserré, peut-il encore rassembler? Les Échos s'inquiètent pour l'Europe, qui s'inquiète pour la taxe Trump, et le reste des quotidiens nationaux s'inquiètent pour l'Europe tout court. Et ça prend de forme. Tout d'abord, les élections aux Pays-Bas, fameux test pour l'Europe et l'extrême droite dont on parlait lundi. Et dans le Parisien, les électeurs de l'extrême droitier et islamophobe Geert Wilders interrogé explique qu'ils votent avant tout pour qu'on les entende, les petits comme eux, disent-ils, pour que les idées que Geert Wilders exprime rentrent dans le débat national. Le Monde accrédite cette thèse. Puisque le programme de Wilders, ses électeurs s'en foutent, puisque, je cite, il tient sur une feuille A4. Certains sont moins subtils, toujours dans le Parisien. Je suis contre les musulmans intégristes et même les autres, dit une jeune femme qui votera pour Geert Wilders aujourd'hui. C'est dans la Croix. Si c'est ce que ces électeurs veulent, et au fond, ils ne peuvent pas tellement espérer autre chose, puisque dans le système hollandais à la proportionnelle, tous les autres partis ont déclaré qu'ils ne formeraient pas de gouvernement avec Geert Wilders, alors le combat est déjà gagné. C'est ce que dit la Croix. L'effet Wilders a dominé la campagne. Le Figaro: quel que soit le score atteint par le PVV, le parti de Wilders, le mal est déjà fait. À La Haye, comme dans d'autres capitales d'Europe, le dynamitage de l'alternance gauche-droite, l'éparpillement des électeurs désorientés, l'essor durable des extrêmes est déjà là. Je cite, le centre de gravité s'est déplacé à droite. Le mal, donc, est déjà fait. Et le succès de Geert Wilders tient aussi, justement, à ce que le Figaro appelle les électeurs désorientés. En tout cas, des électeurs qui ont l'embarras du choix et plus l'intention de voter toujours pour les mêmes. Alors, même si le pays a toujours été divisé, nous sommes dans le pays qui a inventé l'apartheid. Ne l'oublions pas, on le lit dans la Croix. Aucun parti aux Pays-Bas ne dépasse les 17% de vote. Il y a 28 formations en liste, dont cette absurde partie des abstentionnistes, mentionné par la Croix, dont le leader promet qu'il ne se rendra jamais au Parlement si vous votez pour lui. De quoi plonger les abstentionnistes dans des océans de complexité qui épousent tous les tourments du monde. Le mot dislocation, en tout cas, semble bien être le mot européen du jour, car l'autre grande affaire qui occupe les quotidiens ce matin, ce sont les soucis du Royaume-Uni à rester justement uni. Le Figaro lit d'ailleurs les deux en une ce matin, Royaume-Uni, Pays-Bas, les fractures de l'Europe. Les indépendantistes écossais voteront la semaine prochaine pour qu'un référendum ait lieu. À Dublin, le gouvernement de centre-droit réclame aussi un référendum sur la réunification de l'Irlande, et même le discret Pays de Galles s'y met. Un casse-tête pour Theresa May, indique The Independent, qui essaie déjà de se contenter les europhobes de son parti et doit réussir à créer un consensus avec les europhiles écossais, irlandais, gallois, qui ont tous voté pour rester européens. D'ailleurs, Le Monde souligne que l'attachement à l'Europe, vivement revendiqué par Nicola Sturgeon, est une attitude pas si courante par les temps qui comptent, et une attitude revendiquée par un autre candidat néerlandais, l'autre star des médias après Geert Wilders, dont on a peu parlé en France. Et Libé consacre aujourd'hui un portrait à Jesse Klaver, 30 ans, à la tête des Groenlinks, la gauche verte, père marocain, mère indonésienne. Il a été comparé tour à tour pendant la campagne à Justin Trudeau, Bernie Sanders, Barack Obama, europhile, optimiste, opposé à l'évasion fiscale, favorable aux énergies renouvelables. Il est crédité d'environ 11% des votes. Il est celui, contrairement à Geert Wilders, qui fera probablement la pluie et le beau temps sur les coalitions qui vont se mettre en place après les législatives. Et Jesse Klaver nous dit, Libé plaît aux jeunes urbains cosmopolites que Libé appelle les gagnants de la mondialisation, et il semble que de l'Europe au Royaume-Uni aux Pays-Bas, cette expression les gagnants de la mondialisation renferme pas mal d'explications.
Merci Marie Misset pour toutes ces informations. Je rappelle que vous ne les avez pas inventées, elles sont vraiment dans
j'essaye de citer la presse de temps en temps dans cette revue de presse. Oui. J'espère que l'entendez.
Les résultats des Pays-Bas, c'est ce soir, non? C'est ça?
Oui, c'est
le résultat des courses, c'est à quelle heure? Bon, on verra ça
tout à l'heure. On avait dit qu'on ne parlait pas de pâtes sur les courses demain.
7h, 9h, plus près de tout.
On donnera l'adresse un petit peu plus tard. Il est 8h30. Alors, d'accord. À 8h30, on chante un petit peu.
Je vous demande de vous arrêter. Les infos, c'est sérieux.
Non, pourquoi vous arrêtez?
Non, parce que Thierry Paré, c'est sérieux, on m'a dit de ne pas déconner. Les infos, c'est sérieux.
À un moment donné, il faut quand même. Plusieurs comptes Twitter connus. Bon, ok, ça va. Plusieurs comptes Twitter connus sont ou étaient ce matin victimes d'un vaste piratage. Alors, l'éventail, il est assez large. Hein. Ça va des ministères de Bercy au journal Forbes, en passant par l'émission Envoyé spécial, l'Académie de Rennes. Bon, voilà une liste non exhaustive. Un drapeau turc, une vidéo et un message en langue turque sont ou étaient notamment visibles. 150 députés néerlandais sont élus tous les 4 ans à la proportionnelle. Près de 13 millions de Néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi. Des bureaux de vote ont ouvert il y a à peu près une heure. Les Pays-Bas inaugurent une série de votes cruciaux en Europe. Les Allemands et les Français suivront. C'est une élection qui comporte plusieurs particularités. D'abord, il n'y a qu'une seule circonscription, c'est-à-dire le pays. Les députés sont donc élus au niveau national. Et puis ensuite, le seuil théorique pour obtenir un siège, il est extrêmement bas, hein, puisqu'un score de 0,67% est théoriquement suffisant pour être représenté à l'Assemblée. 28 partis sont en lice pour ce scrutin. Selon les tendances, une douzaine pourraient obtenir des sièges, dont le VVD du Premier ministre libéral sortant et le PVV du leader d'extrême droite Geert Wilders. Ça fait tout juste 6 ans ce mercredi qu'a débuté le conflit syrien, un conflit qui a fait environ 465 000 morts et disparus, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONU, elle, a arrêté le décompte des victimes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour favoritisme portant sur l'organisation d'une coûteuse soirée de promotion des start-up français à Las Vegas en janvier 2016. Le Canard Enchaîné avait évoqué la semaine dernière des soupçons entourant l'organisation de cette soirée. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait été la vedette de cette manifestation à plus de 380 000 euros, dont 100 000 euros d'hôtel pour les invités, selon le Canard Enchaîné. Une première sous la Ve République, un candidat à la présidentielle est donc mis en examen, François Fillon. Hein, il était initialement convoqué par le juge Tournaire aujourd'hui. Finalement, le calendrier a été avancé pour éviter la frénésie médiatique. Le candidat de la droite est officiellement poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité, recel d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations déclaratives. On notera que le chef de trafic d'influence, lui, n'a en revanche pas été retenu. Manuel Valls a réuni ses soutiens hier soir à l'Assemblée nationale. Il s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire du PS. Et bien l'ancien Premier ministre a confirmé devant ses amis qu'il ne donnerait pas son parrainage à Benoît Hamon, sans pour autant rallier Emmanuel Macron. La justice suspecte le groupe Renault d'avoir trompé ses clients sur le véritable niveau de pollution de ses moteurs diesel. Une affaire en cours. Les joueurs du Stade français ne s'entraîneront pas, ils ne joueront pas plus samedi contre Castres pour la simple et bonne raison qu'ils sont en grève. Une grève illimitée pour dénoncer la fusion de leur club avec le Racing 92, une annonce qui a pris tout le monde par surprise. Monaco doit marquer à deux reprises ce soir sans prendre de but pour se qualifier pour les quarts de
sans
finale.
Sans prendre de bus, bah ils y vont comment alors ouais,
sans prendre de but pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ça se paiera en temps et en heure.
En tout cas, quand tu prends le bus, t'es sûr d'être en quart.
Très voilà. Bien, ça se paiera doublement. Les Monégasques qui reçoivent Manchester City ce soir s'étaient inclinés 5-3 au match aller en Angleterre. De son côté, l'Atlético Madrid attend Leverkusen. Les Espagnols s'étaient imposés 4-2 au match aller en Allemagne. Hier soir, Leicester a sorti Séville et la Juve a sorti Porto. Et puis, c'est reparti pour une nouvelle saison des championnats du monde de surf. La première étape se déroule sur la Gold Coast australienne depuis hier. 34 surfeurs, 17 surfeuses vont s'affronter jusqu'au mois de décembre. Attention, dont le mythique Kenny Slater.
Qui est revenu.
45 ans.
Qui est revenu, ouais, qui est revenu. Voilà. Ça s'arrangera entre dans les vestiaires, notre truc, là, votre combat, là, quand même. Plus
tard. D'où vous vient cette science du jeu de mots, quand même, Atman? Parce que c'est quelque chose qui me fascine.
Ça s'appelle de la tourette.
Sur Twitter là-dessus aussi,
ouais. C'est de la tourette, un petit peu, ouais.
La météo de Tito, de Météo France.
Bonjour les Louisettes, Louison, Louis, Louis, Luisito, Luciano, Lucia. Sainte Louise, aujourd'hui, bonne fête. Alors, les températures seront. Sachez qu'aujourd'hui, il ne pleut nulle part en France. Agen de 6 à 15. Amiens de 3 à 14. Beauvais de 3 à 15. Boulogne-sur-Mer de 6 à 12. Et Brest de 6 à 15. Corté de 4 à 18. Laval de 6 à 14. Marseille de 7 à 19. Paris de 4 à 14. Tours de 6 à 14. Moscou de 1 à 9.
Il y a deux choses très rouges dans le studio, c'est ton t-shirt et ton visage, j'adore.
Le visage de qui? Le t-shirt de qui? On ne saura pas.
On ne saura jamais, c'est mystère. Alors vous téléphonez pour savoir et vous gagnerez un mug plus près de quoi qui est fabriqué à Albi. Voilà, je le dis.
Atman s'est lancé dans la fabrication de mugs plus près de toi.
Je veux bien faire de l'argent à côté. Hein.
Vive le mug.
Qui est là? Allô?
Oui. C'est un auditeur?
Ammoniacal, c'est vous?
Oui.
Vous êtes là?
Oui, c'est toujours pas simple. C'est toujours. C'est triste parce que. Edouard.
Ammoniacal?
Comment?
Vous pleurez?
Hein?
Vous pleurez?
Quoi?
Là, vous pleurez, là?
Oui. Oui, je pleure parce que. On a. Déjà, je me présente.
Oui, présentez-vous.
Mignon. Ammoniacal. Je suis ammoniacal. Je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon. Et Je trouve que Edouard n'est pas là.
Oui,
c'est vrai.
Je trouve qu'il n'est pas là. Ce qui... Ça manque dans un sens, mais...
Vous êtes triste, alors ?
Oui.
Et vous allez utiliser quelle partie du corps pour vous essuyer les yeux ? Le pingouin ou le chiffon ?
Le côté pingouin, parce qu'il est sec.
Ah bon ? C'est rêche, quand même, le pingouin.
Oui, c'est rêche, mais... C'est ce qu'il y a de plus sec. Et c'est waterproof.
Racontez-nous votre semaine, alors, en attendant, Edouard.
Ben...
Vous avez fait...
Ben, lundi...
Oui.
Ben, ça va. Mardi. Mardi, je suis allé dans la forêt merveilleuse, où c'était merveilleux.
Qui de merveilleux avez-vous rencontré ?
Des Indiens sifflés. Ah. C'est des Indiens qui ont un trou en biseau à l'intérieur de la glotte, et si on souffle dedans, ça fait du bruit de siffler. Et ça dépend de la taille de l'Indien. Plus il est gros, plus c'est grave.
Vous pouvez nous limiter, l'Indien sifflé ? Ah, on le voit bien. C'est une tribu très très rare qu'on ne connaissait pas.
Oui.
Et
il y a d'autres trucs.
Oui.
Mais j'arrive pas à me relier. Ah si.
Mais pas de
lunettes. Il y a des volcans de couleurs. On peut colorier des paysages avec des volcans.
Oui.
D'accord. Il y a des arracheurs de têtes.
Des arracheurs de têtes, c'est pas les mêmes que les Indiens sifflés.
C'est une autre tribu. Des arracheurs de têtes.
Oui.
C'est une sorte de décapsuleur.
Ah.
Mais de tête. Oui, bon, c'est pas...
Mais c'est important d'en parler.
Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est... Que j'aime pas les gens qui parlent d'eux. Et... Oui.
Vous avez des exemples ?
Ben non, mais je trouve que moi, par exemple, j'aime pas parler de moi parce que je suis modeste et je préfère que de regarder autour de moi parce que j'ai une sensibilité accrue.
Oui.
Parce que je trouve que les gens qui parlent d'eux sans cesse, eh ben, ils voient pas les autres.
Oui, ils sont aveugles.
Ils sont aveugles. Oui. Atmen.
Oui.
Vous êtes toujours aussi somptueux au niveau du visage.
Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler. C'est un cadeau, Nova. Oui.
C'est qui ?
Ammoniacal.
Edouard ?
C'est parrain. C'est Edouard. Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais où tu es ? J'ai pas eu. J'ai faim. Normalement, tu me donnes du lait.
Et là, je suis parti faire du cinéma, mais je rentre demain.
Ils m'ont donné du lait en poudre.
Mais tu rajoutes de l'eau, c'est très bon.
Oui, mais c'est quand même moins bon que ton lait.
Et parce que j'ai une vache à la maison, mais tu peux aller la voir, elle t'aime beaucoup, Corinne.
Non, je veux pas du lait de vache, je veux ton lait.
Mais il faut venir le chercher, monsieur, là. Il faut venir le chercher, là.
Il faut le récupérer.
Il faut le récupérer, là. On vous le laisse à la consigne, là.
Je suis là demain matin, je vais...
Il serait temps. Merci, Ammoniacal.
Merci aussi à moi.
Ah, vous voulez pas parler de vous-même, mais vous félicitez, c'est bien aussi.
Vous savez qu'il faut garder le remerciement.
À 9h moins le quart, Grégoire Bizot de Libération nous a rejoint pour parler de politique. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Thomas.
J'essaie comme il le fait tous les mercredis. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
24 heures d'avance, quasiment la bonne surprise pour François Fillon. La mise en examen était attendue, en tout cas la décision de la mise en examen était attendue pour aujourd'hui. C'est tombé hier, une décision de mise en examen pour le candidat LR.
Et on a envie de se dire, est-ce que c'est... Enfin moi j'ai envie de me dire... Et donc je vous dis... J'ai envie de poser cette question. Est-ce que c'est... une bonne nouvelle, cette affaire, ou est-ce que c'est le signe que rien ne fonctionne dans cette démocratie ? Mmh. Et comme je suis quelqu'un de vachement intelligent, je vais dire un peu les deux. Non, mais ceci dit, c'est important. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, malgré les cris d'orfraie de la droite ? Parce que c'est le signe quand même que les contre-pouvoirs de cette démocratie fonctionnent. Et j'ai envie de dire, il y en a deux qui ont très bien fonctionné. Parfois, ils ne fonctionnent pas très bien, mais là, en l'occurrence, ils ont plutôt très bien fonctionné. La presse a d'abord très bien fonctionné, notamment le Canard enchaîné, puisque beaucoup de ce qu'ils ont révélé a contribué à faire avancer une part de la vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire le caractère fictif ou supposé fictif des emplois, n'a pas été prouvé vraiment. Mais en tout cas, dans cette affaire à feuilleton, puisqu'il y en a eu plusieurs, la presse n'a pas dérapé totalement. Elle n'est pas sortie de ses clous. Et ça, c'est plutôt la preuve qu'elle fonctionne bien. Le deuxième pouvoir qui a très bien fonctionné, et c'était autrement plus compliqué, c'est la justice. Parce que la justice, qu'est-ce qu'elle avait comme choix? Elle avait deux mauvais choix à faire. Elle avait soit elle suspend ses investigations, bon, et elle le dit, voilà, compte tenu de l'enjeu démocratique, on suspend. Alors évidemment, la conséquence de ça, c'est qu'à mon avis, aurait été assez désastreuse. C'est que ça aurait donné l'impression que l'homme politique est aujourd'hui injusticiable, pas comme les autres, et qu'il y a la justice des puissants, la justice des grands, la justice de cette élite, hein, conspuée tout le temps, et la justice des Français. L'autre solution, qui était une solution de... C'était d'aller vite, quitte à bousculer le calendrier politique, quitte à rentrer dans cette campagne. C'est ce qu'ils ont fait. Paradoxalement, je vous rappelle qu'au début, Fillon disait « j'aimerais qu'elle aille vite », et puis une fois qu'elle s'est mise à aller vite, elle dit bah, il a critiqué sa rapidité.
Non, donc. Mais il a été dit que le calendrier de la justice, en l'occurrence, n'était pas aussi exceptionnel que François Fillon a voulu faire croire.
Oui, alors, c'est un débat. Ouais. Voilà. En tout cas, tout le monde s'est accordé à dire qu'elle est allée vite. Hein, pas de manière exceptionnellement vite, mais elle est allée vite dans ce cas précis. Et on peut comprendre parce que la justice est aussi intelligente, c'est-à-dire qu'elle a aussi un sens politique. Elle a bien vu que la rapidité servait un peu les intérêts de tout le monde, en l'occurrence, et de l'électeur, et de François Fillon.
Et de la fonction présidentielle, éventuellement.
Et de la fonction présidentielle, absolument. Et là, la justice, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah, écoutez, voilà, je vous mets tout sur la table, et ça sera à l'électeur de choisir. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire notre démocratie fonctionne et c'est, bah, voilà, on peut toujours se rassurer un petit peu, ça fait du bien. Voilà. Après, il y a que c'est aussi la révélation d'un drame absolu, cette mise en examen. C'est un drame absolu parce que, évidemment, il y a la question de la confiance, hein, dans cette fameuse confiance que l'on donne ou pas aux hommes politiques, à la parole donnée. Et on entend tous les jours, ils ne respectent pas leurs paroles. On sait que c'est une espèce de vice démocratique, vice de forme quasiment, ontologique, que tous les Français reprochent aux hommes politiques. Et ça, on ne peut pas dire que cette affaire Fillon va restaurer la confiance dans l'homme politique. Puisque, on rappelle à nos éditeurs qu'il a quand même fait campagne sur est-ce qu'on verrait... le général de Gaulle mis en examen, hein, ça c'était pour taper Nicolas Sarkozy. Il a dit lui-même que de toutes les façons, s'il était mis en examen, il ne se présenterait pas, et le voilà présenté.
Donc, il est vraiment au pied du mur. Là, il avait dit s'il était mis en examen, je partirai. Et là, il est vraiment depuis aujourd'hui.
Voilà.
Il le fait pas.
Et voilà, il le fait pas. Et donc ça, je pense que c'est quand même le socle de quelque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire dans une démocratie un rapport politique un peu sain si le pouvoir de délégation que l'on donne à un homme politique on le respecte pas. Et là, quelque part, il le casse. Parce qu'il lui dit, bah, de toutes les façons, ma parole n'a pas beaucoup de poids ni de richesse. Donc ça, c'est très grave. Et c'est très grave parce que moi, si j'étais électeur de droite, hein, ce que je ne suis pas vraiment, mais si je l'étais, et si j'étais convaincu par la pertinence du programme de François Fillon, c'est-à-dire un programme d'austérité, violent, un peu dur, voilà, si... sachant qu'il est probable que ce programme risque de mettre des gens dans la rue, il va y avoir des rapports de force, etc., si je suis convaincu de ça, je me dis, il me faut un président qui va porter, qui va devoir tenir, qui va devoir... Le caractère irréprochable de ce président sera très important dans les moments de tension à venir.
Là, or, il part avec une fragilité gigantesque.
Et là, il part avec une fragilité absolument gigantesque. Et évidemment, sa parole est déjà abîmée. Son autorité naturelle est déjà abîmée. Et donc, quelque part, ça part... Il y a les germes de cette crise, il y a les germes d'un quinquennat, si jamais il était élu président de la République, qui, à mon avis, sera extrêmement difficile, puisque... sa légitimité, grosso modo, sera la légitimité de 20-25% des gens qui l'ont élu au premier tour, sachant qu'au deuxième tour, il y aura un ralliement, mais un ralliement avec beaucoup de gens vont y aller en se bouchant le nez, probablement. Et il y a en germe quelque chose qui va, pas pourrir, c'est un peu fort, mais qui va rendre ce quinquennat extrêmement difficile.
En 30 secondes, Gérard Bizot, il y a une autre affaire éventuellement qui est en train de naître là, du côté de Macron?
Oui, il y a une autre affaire qui est en train de naître. Alors, c'est un peu trop tôt pour savoir si elle est...
Il n'est pas mis en cause personnellement.
Non, il n'est pas mis en cause personnellement. Il est mis en cause dans ses fonctions ministérielles pour l'organisation d'un déplacement. Il ne s'agit pas d'enrichissement personnel, il ne s'agit pas de détournement de fonds publics, il s'agit de non-respect des procédures d'appel d'offres. C'est important, hein, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on en sait aujourd'hui, soyons prudents, à la hauteur de l'affaire Fillon.
Merci Grégoire Bizot de Libération. On retrouve votre signature dans Libération du jour et de demain aussi, sans doute. Merci à vous.
Et on va retrouver très rapidement Jack Souvent dans la rue pour une dernière balade. Jack ?
Je suis avec Guillaume qui était en train de consulter ses mails sur un banc. On est boulevard Saint-Germain. Et Guillaume, vous êtes spécialiste un peu des protections de données dans le secteur médical. Et on était en train de parler du hacking des données médicales.
Oui, bonjour. Donc, les données médicales, comme toutes les données personnelles, sont des données qui doivent être protégées, et très, très protégées. Il y a plusieurs raisons pour qu'on puisse les attaquer, ces données, soit juste pour rigoler, comme beaucoup de hackers qui s'essayent dans un premier temps, mais aussi parce qu'elles ont une valeur, que cette valeur soit concernant la recherche médicale, ou concernant votre vie, enfin la vie des personnes dont les données seraient piratées, notamment pour des raisons économiques, pour des raisons d'assurance, pour des raisons bancaires, enfin pour beaucoup de l'espionnage, c'est-à-dire on se renseigne un peu sur l'état de santé de telle personne. Exactement, je pense que les assurances, si elles peuvent savoir qu'avant qu'il y ait un risque, vous êtes dans une population risquée justement, parce que vous êtes soit trop gros, soit trop maigre, soit... Voilà, vous risquez soit de payer de plus, soit de ne pas être du tout assuré.
Ou pour un crédit, monsieur. Les gens qui veulent faire un crédit, s'ils sont malades, on ne leur donne pas un crédit, quoi, c'est ça?
Exactement, voilà. C'est pour ça que je parlais de bancaire. C'est aussi une des raisons. Donc voilà. Vous protégez ces données-là, vous êtes un peu ciblé, parce que quand on pirate Orange, c'est très très large comme données, mais la médecine, c'est plus ciblé. Oui, tout à fait. Nous, on travaille que pour les professionnels, et notamment les professionnels de santé. Donc, c'est certain qu'on est dans un environnement qui est plus restreint, donc forcément plus protégé, mais aussi un environnement plus à risque, parce que ces données ont de la valeur. Et c'est sur les données médicales qu'il y a actuellement une recrudescence, justement, d'attaques et de piratage, de ransomware, de tout ce qu'on veut comme attaque possible pour essayer de pirater ces données.
Et monsieur,
en discutant, j'ai piqué votre portefeuille.
Ouais, ah oui. Monsieur, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Vous protégez ces données, tout ça, sur un banc, mais vous n'avez pas de bureau? Comment ça se fait, en fait?
Si, j'ai bien un bureau, j'ai même plusieurs bureaux, mais simplement, je vais justement à un congrès sur la protection des données de santé, et je m'étais arrêté 5 minutes avant d'y aller.
D'accord.
Et là maintenant, il n'a plus rien, plus de bureau, plus de portefeuille, plus de portable.
Bon, on vous laisse alors, parce qu'on a le live qui va arriver bientôt, donc on vous laisse protéger ces données, et à très vite.
Petit cheval blanc,
bonjour. Salut.
Salut.
Moi, j'essaye de protéger les données, mais plus du monde des meubles.
Ouais.
Du monde des meubles, c'est pour ça moi aussi j'ai plusieurs bureaux.
Vous aimez la musique, Petit Cheval Blanc?
Ouais.
Pas plus que ça.
Bon, on vous attend sur la verrerie.
Quel genre de musique?
La verrière.
Quel genre de... attends, je reprends mon accent. Le reggae.
Ah bah, c'est pas du tout ce qu'on va écouter dans un instant.
Le jazz festif.
7h-9h, plus près de toi.
C'est la petite surprise, c'est la cerise sur l'émission. Un live alors que nous sommes mercredi. Rudy nous attend sous la verrière de Nova.
Coucou Armen.
Coucou.
Tout à fait, nous sommes en ce mercredi matin déstabilisés. Qu'il est bon de se sentir bousculé par la douceur parfois. Déstabilisé parce qu'il est en effet inhabituel que nous recevions un live en milieu de semaine, mais il était hors de question que nous passions à côté de Katia Bonnet aujourd'hui. Déstabilisé surtout par ce petit chef-d'œuvre intitulé The Visitor, premier album de cette chanteuse californienne débarquée sur Terre avec la finesse d'une poussière d'étoiles. Katia est une super nova. La musique de Katia est aussi grandiloquente, émouvante, qu'intemporelle, aussi romantique qu'inclassable. Nous pourrions tout aussi bien être dans les années 60 aux côtés de Lee Hazlewood que tourner vers une soul music du futur. Et puis il y a cette voix, une voix absolument irrésistible, sensuelle, douce, fluette, calme, à la limite de la fragilité, mais ô combien puissante, à l'image de cette chanteuse qui compose, contrôle, produit tout, toute seule. Katia Bonnet, merci d'être avec nous ce matin. Elle va nous interpréter, et c'est une première en live, The Visitor, qui est aussi le titre de son premier album.